Cette émission-là n'arrête pas de rouler. Merci, Matt, encore une fois pour le booking. Pendant l'émission de Stéphane Lachance qui nous a parlé, je trouve tellement que c'est un sujet intéressant vraiment et important à parler. Merci, t'es ça coche, mon Mathias Turcotte, honnêtement.
Puis Théo, faut dire, l'administration Marchand est une administration qui se vante de sa transparence. On le répète, on le martèle, les communications, la transparence. Puis en général, je leur donne, ils font un bon travail. Mais quand on voit un dossier comme ça, que l'opposition dit on va sortir dans les médias après notre visite pour tenir la population au courant de l'état de ce centre communautaire-là, puis qu'on dit tout simplement, on l'annule, cette visite-là, c'est inacceptable.
Ils ont le droit. Ils ont le droit, l'opposition, de sortir devant les médias puis de dire, savez-vous quoi? On considère qu'un ennemi, c'est trop long.
Puis c'est
partie
vraiment
du processus démocratique. Ils ont entièrement le droit. Parlant de processus démocratique, ça fait énormément de temps que les paliers de gouvernement essayent de nous enfoncer dans la gorge. Acheter des véhicules électriques, électrification 101. Mais Gab, tels des Gaulois dans Astérix, on résiste à la tentation. Ce qui fait en sorte qu'en 2025, c'est 49% moins de ventes pour les voitures électriques. Aïe, aïe, quelle débandade! On parle avec Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal.
Oui, non, c'est une débandade, là. C'est effectivement le cas, là. Quand on regarde les chiffres de 2024, où on avait un gouvernement, là, presque gonflé à bloc, quatrième trimestre, nous expliquait que c'était incroyable comment on vend du véhicule électrique, on vend du véhicule hybride rechargeable. Puis finalement, en 2025, on comprend là, que l'appétit est là, extrêmement diminué. Là, on parle d'environ une baisse de 50%. Là, je pense que tout le monde se rappelle en septembre de l'année passée quand le ministre c'est M. Drainville à cette époque-là, nous avait dit on va changer ça, on va arrêter le 100%, on va arrêter l'interdiction complète de véhicules à essence en 2035, on va aller à un 90%. Là, on comprend que ça ne fonctionnait pas. Déjà en septembre 2025, là, on avait des chiffres qui nous disaient les cibles ne seront pas atteintes. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est de Frankensteiniser. Un peu un vrai Frankenstein avec la politique publique, de dire, on voulait du véhicule électrique. Fait que là, on avait un crédit de véhicule électrique, puis 0,5 pour l'hybride branchable. On n'y arrivera pas. Un point pour l'hybride branchable maintenant. Puis l'hybride qui n'était pas branchable, qui était juste rechargeable, ça ne comptait pas pour nous autres. Maintenant, on donne 1,5. On va commencer à gonfler artificiellement les crédits pour s'assurer qu'on remplisse notre cible. Finalement, même avec cette artificialisation-là des crédits, là, ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés aux 22% en 2025. Ils ne sont pas à 22%. Fait que ce que ça vient nous dire ici, là, c'est que même quand le gouvernement constate l'échec, on essaie de tout arranger avec le gars des vues pour que ça fonctionne. Puis ça ne fonctionne quand même pas. Je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à un moment donné au gouvernement là, que le monde n'en veut pas ces chars-là. Fait que pourquoi essayer de nous les obliger avec des subventions en plus?
Tu as entièrement raison. Et la raison, Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal, analyste politique senior, pourquoi les gens ne se ruent pas vers le véhicule électrique, il est fort simple et il est écrit dans votre enquête et votre recherche. Pour une voiture normale, une voiture compacte, c'est 6 720 $ de plus à l'achat le véhicule électrique. Pour un VUS, ce que j'ai pas le choix, j'ai une famille, j'ai des poches d'hockey à transporter, c'est 11 490 $. Donc là, j'ai pensé à ça. J'ai dit, OK, moi, je mets à peu près 100$ d'essence par semaine dans mon véhicule. Il y a 52 semaines, ça fait 5 200. Le coût à l'achat est 11 490. Ça va me prendre 2 ans pour rentabiliser ça. Mais je vais payer en plus de l'électricité. Je suis pas mal serré comme la majorité des Québécois. C'est sûr que j'en achète pas.
Ben ça, c'est un excellent point parce que souvent, ce qu'on entend, c'est de dire, oui, mais JF, franchement, sur 6 ans, là, t'es gagnant sur 5 ans. Ben oui, mais quand t'as de la misère à mettre de la bouffe sur la table, quand c'est difficile, il faut que tu fasses
mais
des
c'est
choix.
Ça, c'est maintenant que j'ai de la misère. Exact. C'est là, fait que je peux pas me permettre une dépense d'$11 000 de plus aujourd'hui.
Ben quand, exactement, puis quand t'as une famille en plus, là, faut que tu payes l'école pour les petits, t'as des activités, fait que t'arrives à un point où même si t'es loin, mettons que quelqu'un très très loin d'être au salaire minimum peut en arracher, là, faut être clair, là, un salaire appréciable, des fois on est très serré, ce qui fait en sorte que la personne qui va être serrée, qui va se dire, ben, tu peux pas commencer à penser dans 4, 5, 6 ans si c'est plus cher ou moins cher, aujourd'hui, à l'instant T, mon char vient de péter, faut que je m'en achète un nouveau. La réalité, c'est que tu ne prendras sûrement pas électrique. Celui qui va prendre électrique, là, ben souvent, lui, il fait peut-être un peu plus d'argent. Fait que c'est celui qui a la ceinture plus serrée qui va à travers des impôts, à travers la bourse carbone appliquée sur le carburant qui va justement financer ces subventions-là aux provinciales puis les impôts pour les subventions au fédéral. Fait qu'ultimement, il y a un transfert de richesse des personnes qui sont terriers vers ceux qui peuvent se permettre une voiture électrique. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est pas une bonne approche, la question des subventions. Elles avaient été réduites, sinon vraiment abolies l'année dernière. Et là, on voit que le gouvernement du Québec, on arrive avec un 2000 $. Le gouvernement fédéral avait fermé ça là, avec un double tour, là, puis ça avait l'air d'être fini. Puis finalement, whoop, on ressuscite tout ça, un peu comme un Frankenstein encore, bon, un 5000 piastres. Là, finalement, ben, ce qu'on voit, c'est qu'on accepte dans la catégorie véhicules zéro émission, qui initialement là, était liée aux véhicules électriques, là, c'est rendu les hybrides chargeables, les hybrides rechargeables, même pas branchables. Fait que là, t'arrives à un point où bientôt, ça risque d'être les Toyota Corolla à essence qui vont être zéro émission. Ben, tu sais, juste pour être sûr qu'on atteigne nos cibles, il va falloir qu'il y ait une réflexion de fond au sein du gouvernement du Québec. Comprendre là, que les gens, c'est correct si tout le monde veut des véhicules électriques, il ne faut juste pas commencer à artificialiser la demande puis obliger les gens à en acheter. Puis ça, ben, naturellement, il va falloir réduire, sinon abolir l'interdiction là, qui part vers nous de 90% en 2035.
Puis, fait que ce qui se passe un peu, si je peux résumer, c'est que là, on aide des personnes qui ont déjà beaucoup de moyens, des mieux nantis, à acheter des chars de luxe qui valent plus cher des chars électriques à travers une taxe à l'essence qui est payée par les personnes qui n'ont pas les moyens nécessairement de s'acheter ces mêmes véhicules-là. C'est un peu ça.
C'est exactement ça pour les subventions fédérales. Tu achètes une caravane 2013 parce que tu as une famille et tu peux pas t'acheter le dernier char, dernier cri. Là, je pense que quand on écoute le hockey puis on voit les pubs de Ford Ram à partir de 66 000 piastres. Il y a un peu de monde qui va se dire « Yes, en fin de semaine, je vais aller m'acheter ça. » La réalité, c'est que tu as peut-être un char 2013-2015, puis effectivement, quand tu fais le plein, ben, tu as la taxe carbone indirectement parce que c'est payé par les raffineries qui va être envoyée en subvention ou par impôt au fédéral. Autrement dit, c'est un transfert de richesse. Fait qu'effectivement, le gouvernement devrait dire « Ben, il me semble que même sur le plan éthique, là, je n'irais pas là. Je ne l'obligerais pas. Je pense que ça serait une bonne approche. Maintenant, on voit qu'au gouvernement du Québec, on tarde à agir. Ce qu'on a vu en septembre dernier, ça a été beaucoup de discours politiques, de nous expliquer qu'on allait alléger les cibles. D'abord, la première chose, c'est que les cibles ne sont toujours pas allégées. À l'heure où on se parle, on a regardé hier dans la réglementation, ce n'est pas encore fait d'une part et d'autre part. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on ne veut pas juste alléger les cibles, on veut simplement mettre la hache dans ce programme-là puis se dire, ben, regardez, on va laisser les gens choisir. S'ils veulent des véhicules électriques, c'est correct, c'est le choix des personnes. S'ils se disent, ben, regarde, là, le pétrole, moi, j'ai plus envie d'acheter de gaz, il n'y a pas de trouble, allez-y, mais c'est pas aux gens qui ont encore une fois un véhicule peut-être un petit peu plus vieux qui ne peuvent pas se permettre le nouveau véhicule électrique dernier cri à subventionner votre véhicule.
Gabriel Giguère, tant qu'à t'avoir, la taxe sur l'essence, la bourse carbone est sur toutes les lèvres avec le conflit qui se passe en Iran. Je le rappelle, le litre d'essence pourrait monter jusqu'à 1,90 à la pompe ce week-end. On va d'ailleurs parler avec Julie White, présidente et directrice générale de Manufacturier Exportateur Québec, dans quelques minutes. Mais là, nous, à Boulevard 101, ce qui est le fun, c'est qu'on parle avec plein de politiciens. Parce qu'on est de l'extrême centre. Alors, tout le monde vient nous voir. Et là, on a parlé avec Pascal Paradis hier dans Marceau le matin. Moi et Mathias, tout à l'heure, on a parlé avec Christine Fréchette. On a parlé aussi avec Bernard Drainville, la Bourse Carbone, ce matin dans Marceau le matin. Ils nous donnent toutes des réponses super claires sur à quoi sert la Bourse Carbone. D'accord? Alors, t'es prêt à entendre cette clarté-là de nos trois politiciens, Gabriel? Je t'ai fait jouer dans l'ordre. Tu vas triper sur comment on comprend c'est quoi la bourse carbone. Écoute bien ça. On commence avec Pascal Paradis.
C'est un marché qui a été créé, marché dans lequel des entreprises achètent des droits d'émission, donc ils investissent. Ils changent aussi leurs pratiques commerciales. Donc, si on élimine le marché du carbone, soudainement, il y a toutes ces entreprises-là qui ont investi énormément, qui vont se tourner vers le gouvernement et qui vont dire, ben nous, on avait investi là-dedans. Puis il y a des gens qui font de bonnes affaires dans le marché du carbone.
Ah, des bonnes affaires.
Parce que notamment, ça attire des clients, ça attire des gens qui disent, moi, je veux faire affaire avec des entreprises qui ont ces politiques-là puis qui sont sur des marchés du carbone. C'est le cas de beaucoup de clients.
Avez-vous des exemples concrets?
Ben là, j'ai pas d'exemple à vous nommer aujourd'hui, là, mais il y en a des dizaines et des centaines là, qui sont sur le marché du carbone.
Il y en a des centaines, des mais on ne peut pas en nommer.
Des dizaines et des centaines, mais pas d'exemple. Christine Fréchette, maintenant.
Carbone.
La bourse carbone, il faut voir qu'elle génère des revenus quand même considérables, 1,3 milliard de dollars.
Ah, oui.
Donc, c'est des revenus qui financent plusieurs programmes gouvernementaux qui servent aux citoyens. Donc, c'est sûr que ça a un coût très important.
Moi et toi, Gab.
La bourse carbone. Donc, voilà, pour moi, c'est le coût des plaques d'immatriculation qui va permettre aux gens d'être remboursés, je dirais, compensés plutôt.
Ça, c'était par rapport à la taxe sur l'essence qu'elle va les récupérer.
Avez-vous un exemple concret, justement, d'un projet qui est né de la bourse carbone?
C'est des programmes d'aide, par exemple, qui visent à améliorer l'efficacité énergétique. Vous en avez de ces programmes-là. C'est important qu'on s'inscrive là-dedans parce qu'on est dans un contexte de transition énergétique pour réduire notre, faut améliorer notre efficacité énergétique. Et donc, c'est des programmes qui encouragent.
C'est un exemple concret, hein,
la sobriété, vraiment, je dirais, plus grande. On est dans les plus grands consommateurs d'énergie, hein, par capita. Donc, il faut essayer d'améliorer notre performance de ce côté-là.
Et Bernard Drainville, qui était au sein du gouvernement qui a inventé le marché de la bourse carbone?
Yannick, je ne commencerai pas à me désolidariser des gouvernements auxquels j'ai appartenu. Je trouverais ça couillon si je faisais ça, puis je suis pas couillon.
Mais avec du recul, c'est une bonne chose d'embarquer là-dedans au départ?
Écoute, tu sais, avec des cibles, des peut-être. Là.
Parce qu'il y a juste l'électeur qui perd de l'argent. Le gouvernement s'en fait beaucoup.
Ouais, mais tu sais, regarde, c'est tellement facile de réécrire l'histoire avec le recul, là. Tu sais, faire les gérants d'estrade.
Ouais, je fais la même affaire que Martin Saint-Louis.
Je rentre pas là-dedans. Ouais, c'est ça.
Donc, Gabriel, rassure-moi. Avec les exemples concrets de Pascal Paradis, avec les programmes si importants pour les citoyens que Christine Fréchette nous a expliqués, et avec l'enthousiasme démesuré de Bernard Drainville, qui était au gouvernement du Parti québécois, qui s'est inscrit au marché carbone, à la bourse carbone, c'est une bonne idée avec ce que tu as entendu?
Bien, en 20 secondes, OK? Il faut que j'adresse les trois. Le premier, là, quand on entend, j'ai pas le choix, Pascal Paradis, quand on dit qu'il y a des bonnes business qui font des bonnes affaires, ça s'appelle de la capture réglementaire. C'est pas le type de marché qu'on veut. Quand on pense à Christine Fréchette, cette année, c'est entre 40 et 50 millions de dollars là, du PEP, là, du plan pour une économie verte là, qui est financé par la bourse carbone. On envoie ça à des usines de gaz naturel renouvelable qui nous coûtent 5-6 fois le prix en matière de gaz naturel. On ne gagne pas avec ça. Puis finalement, avec M. Drainville, être au gouvernement, c'est faire des choix. Puis c'est justement pouvoir réformer ce type de structure de taxation comme la bourse carbone. Fait qu'à un moment donné, on peut arrêter de tourner autour du pot, il faut le dire. Là. Il va falloir qu'on passe à autre chose.
Et voilà. C'était la minute bourse carbone avec Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Analyste politique senior. Gabriel, tu sais comment c'est toujours un plaisir de te parler. Je voulais te faire rire en ce vendredi. J'ai réussi. Je suis très content. Abolissons la bourse carbone.
Salut.
Salut, Gabriel. Bon week-end. Gabriel Giguère, que vous pouvez entendre régulièrement sur nos ondes. L'Institut économique de Montréal sort tellement des bons dossiers qui parle aux citoyens plusieurs fois par semaine. Et c'est pour ça qu'on se les fait expliquer par Gabriel Giguère.
Des dossiers qui parlent aux citoyens, contrairement aux politiciens qu'on vient d'entendre. Non, mais pour de vrai, God. Jeff, pour de vrai, on demande un exemple concret. C'est facile de dire, il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Oui. On n'en demande pas 5, 10, on en demande un, puis on n'est pas capable de
nous
le dire. Je tiens à dire, les politiciens sont censés être préparés quand ils viennent en onde. Ils savent, s'ils vont se faire parler de la bourse carbone, ils savent qu'ils vont probablement se faire demander un exemple. Sois prêt, s'il te plaît.
Ah, t'as pas le choix.
Pour vrai, c'est triste d'entendre des réponses de politiciens. Bernard Drainville, c'est pas vraiment une réponse de politicien. Là.
Non.
C'est presque une réponse d'un chum de gars qui a donné.
On était à tavern avec une bière.
Non, pour vrai, ça ressemblait à ça. Mais du côté des deux autres élus qu'on a entendus, je veux dire, parle à ton monde, à la population, dis-leur à quoi ça sert, sinon c'est sûr tout le monde va être contre ça.
Clairement. Dans un instant, à Boulevard 102, à l'émission On en jase, on va rigoler un peu moins parce que le diesel a augmenté de à la pompe au litre de 1,62 $ à 1,93 $. On s'attend à ce que pour nous, automobilistes, le coût à la pompe au litre soit de 1,90 $ dans la région de Montréal ce dimanche. Donc, il va y avoir des répercussions partout en province. Et quelles répercussions il y a auprès de nos entreprises? Eh bien, on va s'entretenir avec Julie White, présidente directrice générale de Manufacturier Exportateur du Québec, dans un instant à Boulevard 102.1 à l'émission On en jase.